Suite de l'information, c'est le journal des Amériques et d'Haïti en votre compagnie. Hugo Lanoë, bonjour Hugo.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Et on vous propose une édition particulière aujourd'hui. Deux invités avec nous en studio. Ils sont journalistes haïtiens, lauréats du prix Philippe Chaffanjon, récompensés pour le meilleur reportage multimédia haïtien. Luxon Saint-Ville et Jean-Marc Hervé Ablard ont enquêté au cœur de Cité Soleil, le plus grand bidonville de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Un peu moins de 300 000 habitants y vivent. Tous ont vécu pendant des décennies sous la terreur des chefs de gang. Mais ces bandits ont décidé de déposer les armes en 2015, laissant place à une accalmie. Des bandits qui se sont transformés en bienfaiteurs en mettant en place des fondations qui financent des projets sociaux. Une manière pour eux de blanchir de l'argent tout en se rachetant une image. Cité Soleil, les dessous d'une paix fragile, une enquête multimédia fascinante qui met en lumière les connivences entre le politique, les réseaux criminels et les milieux d'affaires.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Luxon Saint-Ville, Jean-Marc Hervé Ablard, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour Marie.
Bonjour Luxon Saint-Ville.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Avant toute chose, félicitations pour ce prix Philippe Chaffanjon. On est très heureux de vous accueillir ici à RFI. Une réaction suite à ce prix?
D'abord, j'ai reçu ce prix avec un sentiment de fierté et de satisfaction. Satisfaction d'abord parce que j'arrive à mettre en lumière ou encore allumer les projecteurs sur un phénomène bien précis à Cité Soleil. Et je pense que j'ai contribué à attirer l'attention, mais malheureusement l'alerte n'a pas été suivie puisque les conflits ont basculé. Et fierté parce que le prix Philippe Chaffanjon, c'est un prix très prestigieux.
On va rentrer dans les détails de l'enquête dans un instant. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Luxon Saint-Ville, vous êtes journaliste haïtien, originaire de Cité Soleil. Vous y avez vécu et grandi. Vous travaillez pour Radio Métropole et Loupe Haïti. À vos côtés, Jean-Marc Hervé Ablard, photojournaliste haïtien. Vous travaillez notamment pour Le Nouvelliste et Associated Press. Vous êtes l'auteur des photos qui illustrent cette enquête Cité Soleil, les dessous d'une paix fragile, à consulter, à lire, à écouter, à regarder sur le site Aïebo Post depuis le mois de décembre. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais il vous a accompagné pendant ces 8 mois d'enquête. Dieu Nalio Chéri, qu'on salue s'il est à l'écoute de la radio du Monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet pour nos auditeurs, Luxon Saint-Ville, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que Cité Soleil?
Alors Cité Soleil, c'est le plus vaste bidonville de Port-au-Prince. On parle même du plus grand bidonville de la Caraïbe. Un bidonville qui s'étale sur une superficie de 21,8 km² avec près de 300 000 habitants. C'est une commune qui est traversée par des turbulences politiques, surtout avec la gouvernance de Jean-Bertrand Aristide, l'ex-président des jeunes armés, avec des conflits assez intenses, mais aussi des affrontements pour le contrôle des territoires. Donc depuis 2001, en passant par 2004 jusqu'à 2015, cette commune a connu des situations terribles qui ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés par balle.
Elle est dessous d'une paix fragile, justement, c'est le sous-titre de votre enquête. Ce que vous craignez, Luxon Saint-Ville et Jean-Marc Hervé Ablard, s'est produit après une accalmie amorcée en 2015 par les chefs de gang. Les violences ont repris à Cité Soleil dernièrement. Quelle est la situation sur place en ce moment?
Alors, il faut dire que la reprise des conflits armés, la raison principale, c'est la politique, puisque chaque chef de gang supporte un candidat. Il faut signaler que les prochaines élections sont prévues pour le mois d'octobre prochain. Donc par rapport à cette situation, le support des chefs de gang, ça a basculé à Cité Soleil. Les affrontements ont repris et le bilan, on parle d'une dizaine de morts et plusieurs blessés par balle. Mais dans l'histoire de Cité Soleil, il est difficile pour un élu ou encore pour une personnalité de trouver ou encore de passer aux élections sans le support des chefs de gang. Donc c'est par rapport à tout cela que la politique est la raison principale de cette reprise des affrontements à Cité Soleil.
Alors messieurs, on va remonter le temps. Nous sommes en 2015. Les gangs armés qui contrôlent les 34 quartiers de Cité Soleil observent une trêve. 34 quartiers répartis en 3 blocs. Chaque groupe armé contrôle un de ces blocs. La température descend d'un cran dans le bidonville. Les armes se taisent. Certains membres de gang suivent le mouvement. C'est le cas d'un certain Dieu Fête, 42 ans, père de famille que vous avez rencontré. On l'écoute.
Je n'ai pas de chiffres précis, mais j'ai tué beaucoup de personnes. Étant donné que je suis un virtuose de la conduite, le groupe armé auquel j'appartenais à l'époque m'utilisait comme chauffeur pour aller kidnapper des gens. Une fois le travail terminé, je recevais ma part de la rançon versée par la famille de la personne kidnappée. Mais vous pouvez vous faire tuer. J'ai l'habitude de transporter avec moi des cadavres. Une fois, l'un de mes partisans avait reçu une balle à l'oreille, son crâne a éclaté et a sali mon maillot. J'ai fait ça pour subvenir à mes besoins. J'étais devenu très violent, je devais trouver de l'argent, je n'avais pas d'autre choix. Aujourd'hui, je me considère comme un converti.
Luxon Saint-Ville, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut entendre quand un ancien soldat d'un groupe armé dit « je me suis converti ».
Alors, il faut dire que Dieufaite faisait partie des groupes armés qui ont cantonné à Cité-Soleil entre 2001 et 2004. C'est justement un ancien soldat qui s'est converti. Mais d'abord, c'est la raison principale, c'est se faire une autre image, et c'est ces gangs armés, puisque le fonctionnement ou encore les risques dans le fonctionnement des gangs, c'est très énorme. Et par rapport à la population, Dieufaite, par exemple, il voulait se montrer comme quelqu'un qui veut changer de stratégie, changer de méthode de vie. Et par rapport à cela, il a même donné des conseils au nouveau chef de gang qui fonctionne actuellement à Cité Soleil par rapport au risque. Donc Dieufaite, lui, c'est un exemple vivant. Il a fait de la prison, il a vécu plein de choses. Et dans le fonctionnement de Cité Soleil, Dieufaite est considéré comme un conseiller qui essaye de donner des exemples aux nouveaux chefs qui actuellement se sont adonnés à des activités sociales.
Jean-Marc Hervé Ablard, je me tourne vers vous puisque vous avez pris les images, vous avez filmé à Cité Soleil, et notamment Dieufaite qu'on vient d'entendre, vous l'avez filmé. Entrer à Cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince avec une caméra, est-ce dangereux?
Entrer à Cité Soleil avec une caméra, c'est pas chose facile. D'ailleurs, il y a des endroits qu'on nous interdit d'y pénétrer. Ok, là, pour filmer, avant tout pour filmer, il faut avoir une autorisation. L'autorisation vient de qui?
Des chefs de gang.
Des chefs de gang. C'est pas une immense affaire. Ça a été vraiment difficile parce que moi-même, je suis un inconnu de là-bas.
Contrairement à Luxon, qui vient de
Contrairement
de
à Luxon, oui, c'est ça. Mais lui, il m'a un peu aidé parce que lui, il est de la du cité. On lui fait confiance. C'est avec la confiance qu'on lui fait. Moi aussi, comme je suis avec lui. On me fait un peu de crédit.
Je voulais signaler aussi Luxon, que à Cité Soleil il y a des couloirs qui sont assez sensibles, qu'on ne peut pas circuler n'importe comment. Par exemple, la photo qui a été prise qui montre la vue globale de la cité,
c'est une vue aérienne pour nos auditeurs. Oui, c'est une vue aérienne, on voit une vue d'ensemble du bidonville.
Donc ça, la photo a été prise suite à une autorisation. Et aussi, dans le fonctionnement de la cité, il y a certaines zones assez sensibles qu'on ne peut pas filmer n'importe comment. Mais il y a d'autres quartiers qu'on peut filmer et normalement. Donc c'est pour vous dire que amener la caméra à Cité Soleil, c'était pas chose facile.
Et justement, sur cette photo que vous mentionnez, Luxon Saint-Ville, il y a des impacts de balles sur cette fameuse citerne.
Oui.
Ce qui nous amène à parler évidemment de la problématique des armes, puisque le mot arme, j'ai compté, intervient 42 fois dans votre enquête. Donc c'est dire la problématique que ça soulève. D'ailleurs, en Haïti, plus de 200 000 armes sont en circulation. Seulement 30% d'entre elles sont légalement enregistrées. Et il y a un jeune homme sous couvert d'anonymat qui dit dans votre enquête, un bandit ne peut pas être un agent social quand il vit lui-même dans la précarité, j'aurais même envie de dire, d'autant plus s'il est armé.
Effectivement, donc c'était ça l'un des aspects qui m'a fait dire que la paix ou encore la calmie à Cité Soleil, c'était vraiment fragile. C'était l'un des aspects. En parlant des armes à feu, il faut dire que en Haïti, bon, pas seulement à Cité Soleil, il y a plein d'armes à feu qui circulent de manière illégale. Et les chiffres avancés tout à l'heure, c'est suite à une étude menée par la Commission nationale à justice et paix. C'était en 2007. Vous vous imaginez, on est en 2019, donc il y a beaucoup plus d'armes. Mais ça, il faut dire que c'est à la faveur de la contrebande à travers les frontières. Mais il y a aussi des armes à feu qui sont venues en Haïti par d'autres couloirs. Donc c'est un petit peu complexe pour les autorités de gérer ça.
Rappelons une chose, Haïti ne peut pas acheter des armes de guerre sur le marché international.
Oui, donc c'est jusqu'à présent il y a un embargo et c'est pour cette raison qu'on se pose beaucoup de questions. Où sont venues ces armes? Ces armes à feu ont passé par où? Donc c'est ce qui nous pousse à poser la question ou encore à s'interroger sur la solution à apporter à la criminalité en Haïti.
On va revenir sur l'accalmie donc entre 2016 et 2018, les décès par balles ont considérablement diminué. Les bandits se sont transformés en bienfaiteurs entre guillemets, soulignons-le, et des initiatives sociales ont vu le jour. Je vous propose d'écouter Louino Robillard, l'un des instigateurs du projet Solidarité pour une bibliothèque à Cité Soleil.
Nelson Mandela dit c'est bagarre.
Comme le disait Nelson Mandela, le livre est l'arme la plus puissante qui peut apporter le changement. Si la jeunesse détient cette arme qu'est l'éducation, je vous assure qu'elle ne se laissera plus manipuler. À présent, tous les citoyens de Cité Soleil caressent un grand rêve. Faire de ce bidonville un véritable modèle susceptible d'inspirer le changement en Haïti. Si 10 000 personnes peuvent se mettre ensemble pour construire une bibliothèque ici, pourquoi la population haïtienne, estimée à 11 millions d'habitants, n'arriverait-elle pas à s'unir pour reconstruire le pays?
Pourquoi ça 11 millions haïtiens pas qu'à mettre ensemble pour reconstruire le pays?
C'est une vraie question, ça, Luxon Saint-Ville.
Effectivement, Luino Robillard se posait la question, puisque selon lui et plusieurs autres jeunes qui ont initié ce fameux projet, Cité Soleil veut être le modèle pour Haïti à travers la construction de cette bibliothèque. Il faut le signaler que la construction avance à grands pas. Mais ici, il faut signaler aussi, Hugo, que malgré les conflits armés, les projets sociaux, par exemple, ce projet de construction de bibliothèque est protégé par les chefs de gang.
Alors justement, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais je voudrais aborder quand même un dernier point avec vous deux. Votre enquête illustre bien le désengagement de l'État haïtien à Cité Soleil et plus globalement dans le pays. La connivence, il y a une vraie connivence entre les chefs de gangs armés et les hommes politiques.
Effectivement, c'est prouvé à travers une enquête menée d'ailleurs par la commission sénatoriale qui montre clairement que des politiques, particulièrement des sénateurs, sont en conversation permanente avec des chefs de gang. Et à Cité Soleil particulièrement, on arrive à prouver que entre les politiques, les officiels et les hommes armés, le pont est jeté il y a longtemps. Donc c'est pour dire que Cité Soleil, par rapport à la politique, aux élections, c'est une commune très stratégique, utilisée souvent par les politiques lors des élections, mais aussi des hommes d'affaires qui essaient de courtiser ces hommes armés pour protéger leurs entreprises se trouvant dans les parages.
Et pour illustrer le désengagement de l'État, rappelons que l'école nationale, détruite lors du séisme du 12 janvier 2010, n'est toujours pas reconstruite.
Effectivement, il n'y a pas seulement l'école nationale, il y a des canaux qui ne sont pas curés, il y a la réhabilitation d'une place publique, et c'est pour cette raison justement que les chefs de gang ont créé des fondations, et à travers ces fondations, ils rédigent des projets et demandent de l'aide non seulement aux autorités étatiques, mais aussi des membres du secteur privé haïtien.
Luxon Saint-Ville et Jean-Marc Hervé-Ablard, merci à vous deux.
Merci beaucoup, Hugo.
On vous souhaite une bonne continuation. Cité Soleil, les dessous d'une paix fragile, à consulter, à lire, à écouter, à regarder sur le site Aïbopost depuis le mois de décembre, un reportage lauréat du prix Philippe Chaffanjon. Merci à vous deux. Quelques nouvelles des Amériques dans un instant. Et on est à quelques jours de l'entrée en vigueur des droits de douane sur les produits importés du Mexique aux États-Unis. Le président Donald Trump estime que le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador ne fait pas assez pour stopper le flux migratoire venu d'Amérique centrale. Hier, en pleine négociation, Marie Normand, entre les deux pays sur cette question, Mexico a proposé de déployer 6000 membres de sa garde nationale pour lutter contre l'immigration clandestine.
Et oui, et donc, bien sûr, la presse mexicaine en parle beaucoup pour El Sol de México. AMLO cède à la pression de Trump. Le quotidien affiche en une la photo d'un enfant derrière un grillage. Sans même un accord, renchérit la Razón, Mexico renforce sa frontière. C'est aussi l'info à la une de la Crónica de Hoy. D'après le journal, le gouvernement mexicain a aussi annoncé avoir bloqué les comptes bancaires de 26 trafiquants de personnes présumées qui avaient participé à l'organisation de caravanes de migrants partis d'Amérique centrale.
Et les principaux titres nationaux critiquent ces concessions du gouvernement mexicain et la stratégie du président américain.
Oui, à l'image de Proceso, pour qui Donald Trump est en train d'extorquer au gouvernement d'AMLO son accord pour participer à la politique d'immigration américaine. Et comme dans toute extorsion, Trump profite des vulnérabilités du Mexique et les exploite au maximum, tout comme les groupes criminels auxquels il fait référence et qui ont enraciné au Mexique. La pratique consistant à exiger de l'argent en échange d'une protection, Trump veut soumettre le Mexique, pense le journal, à ce qu'il veut, à savoir une réélection en 2020.
La garde nationale mexicaine est aussi à la une de la presse au Guatemala.
Oui, car ce sera le principal pays concerné à la frontière sud du Mexique. Prensa Libre se demande où seront déployés concrètement ces hommes de la garde nationale. Le ministre mexicain des Affaires étrangères dit qu'elle sera dans le sud-est du pays, elle sera dans tout le Mexique, mais en priorité dans le sud du pays. Bref, ça reste encore assez vague pour l'instant.
La revue de presse des Amériques, Marie Normand. Le journal des Caraïbes à présent avec nos confrères de la Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Hugo.
Benoît, après 32 ans d'absence, les Floralies internationales vont effectuer leur grand retour en Martinique.
Oui, elles auront lieu, ce sera la quatrième édition, du 7 au 15 décembre prochain dans le parc des Trois-Îlets. Une forte présence étrangère est attendue. Objectif de ces Floralies 2019, faire renaître une filière horticole digne de ce nom en Martinique. Jean-Baptiste Anatole.
Le cru 2019 des Floralies de Martinique s'annonce de très bonne qualité. Notre département a récemment brillé aux Floralies de Nantes en remportant une médaille d'or. Elle en a profité pour nouer des contacts pour sa manifestation du 7 au 15 décembre. L'opération martiniquaise va s'appeler Terre de biodiversité. Louis Boutrin, président du Parc naturel régional.
Nous avons mis la barre très haut. On met les petits plats dans les grands. On va réaménager le parc des Floralies pour que l'on puisse accueillir des délégations. Nous sommes très attendus. On a eu des contacts avec un certain nombre de délégations, comme le Qatar, comme également Seattle, comme l'Afrique du Sud et d'autres pays qui sont invités pour cette édition.
C'est le club Soroptimiste de Fort-de-France qui a créé la manifestation. Cette année, c'est un nouveau défi pour le club. Marie-Frédérique Lordino, la présidente.
Il faut que ces quatrième éditions soient aussi rayonnantes que la première, dans la mesure où il s'agit d'un rayonnement international.
Rendez-vous donc en décembre prochain. Les services de l'État sont en ordre de marche en Guadeloupe pour la saison cyclonique 2019 qui approche, saison que les prévisions décrivent comme moyenne, avec tout de même peut-être deux ouragans majeurs, on verra bien. Philippe Gustin est le préfet de la Guadeloupe, il est au micro de Ronan Ponet.
Le système est bien rodé. Il suffit simplement, par rapport à l'expérience qu'on a eue et que j'ai eue moi en particulier en 2018, de clarifier quelques petits points, c'est-à-dire des passages à la marge, d'un niveau d'alerte à un autre, où on peut avoir parfois la tendance entre les mesures collectives et les mesures individuelles qu'il y a des petits hiatus. Donc la réunion plus l'exercice grandeur nature qui aura lieu le 26 juin prochain permettra d'affiner les choses. La saison telle qu'elle est attendue est normale, voire même inférieure à la normale, mais il ne faudrait pas se satisfaire de cette prévision, parce qu'on sait très bien qu'il suffit d'un cyclone. On a rappelé par exemple le cyclone Hugo, qui a marqué la Guadeloupe, dont on se souvient encore aujourd'hui, qui s'inscrivait dans une saison plutôt normale et calme, et qui a suffi à détruire une bonne partie du territoire.
Et évidemment, on ne veut pas revivre 2017 avec les ouragans Irma et Maria dans la mer des Caraïbes. Bon après-midi, bon week-end Hugo, à lundi.
Merci Benoît Ferrand, bonne fin de semaine à vous également. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Hélène Avril à la réalisation, merci à elle, merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore une fois à Luxon Saint-Ville et Jean-Marc Hervé Ablard, lauréat du prix Philippe Chaffanjon pour leur enquête Cité Soleil. Les dessous d'une paix fragile, le lien de leur enquête, vous pourrez le retrouver sur notre site internet RFI.fr et également sur nos applications smartphone. Cette édition est à retrouver sur la toile. Le journal d'Haïti et des Amériques revient lundi avec Anne Verdaguer. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.